Chapitre 21. Les nains attendaient imperturbablement que la pluie veuille bien les épargner, plantés dans le jardin d'un pavillon de plain-pied de Reseda. Une pancarte verte, accrochée à la clôture ripollinée de blanc, annonçait en caractère joyeux de la même couleur « Chez grand-père et grand-mère ». Au total, 6 nains montaient la garde devant la maison. Les 3 premiers, plongés dans leurs pensées, observaient la danse joyeuse dans laquelle étaient figés leurs congénères, près d'une vasque et d'un moulin à vent d'un mètre de haut. Une seconde pancarte, placée au-dessus de la porte d'entrée, accueillait le visiteur. « Dieu bénisse cette maison ». Autant de signes trompeurs destinés à camoufler les activités des occupants du pavillon. Si ceux-ci avaient eu un jour des petits-enfants, ils les avaient dévorés depuis belle lurette. Officiellement, la maison était la propriété de John et Judy White, mais ces derniers se faisaient appeler Pete et Lois Jones. Dieu seul connaissait leur identité réelle, et encore. Les White Jones étaient des réfugiés syriens qui n'avaient sans doute jamais mis les pieds au Moyen-Orient et s'étaient empressés de détruire les faux papiers grâce auxquels ils avaient obtenu le droit d'asile aux États-Unis. En théorie, ils auraient dû résider à Boston chez des proches, mais si la capitale de la Nouvelle-Angleterre existait bel et bien, ce n'était pas le cas des proches en question. Jane monta les quelques marches du perron, referma son parapluie qu'elle posa contre une jardinière et enfonça la sonnette d'un doigt. Lois, une quinquagénaire avenante en jogging rose moulant, ouvrit la porte. Elle portait 6 bas gornés de diamants gros comme des grains de raisin à ses doigts aux ongles laqués en verre. Elle posa sur sa visiteuse un regard à découper une vitre. Une cigarette collée à la lèvre inférieure, elle accueillit Jane dans un anglais teinté d'accents d'Europe de l'Est qui n'avait rien de Moyen-Oriental. « Vous êtes en avance. »«
Je n'ai pas encore fini ma journée. J'espérais que vous auriez terminé en avance. »«
Vous êtes trempée. »«
Je suis désolée, il pleut. »«
Pas de souci, ma chérie. Entrez. »
Une forte odeur de cigarette flottait dans la maison.
« Asseyez-vous. Je vais voir où en est Pete. »
Un chat blanc obèse sommeillait sur le canapé, qui dévisagea Jane de ses yeux venimeux couleur jaune d'œuf. Jane posa une fesse sur le bras d'un fauteuil inclinable. Sans être particulièrement atypique, la décoration du pavillon était à des années-lumière des intérieurs à la Norman Rockwell. Le décor changeait radicalement dans la pièce du fond où Pete, une cigarette aux lèvres du matin au soir, s'activait au milieu d'une forêt de presse à l'ancienne, d'imprimantes laser, de plastifieuses et autres équipements nécessaires à la réalisation de faux documents de toutes sortes. Jane avait obtenu le contact de Lois et Pete par Enrique De Soto, le vendeur de voitures clandestins de Nogales qui lui avait fourni le Ford Escape. Elle avait croisé la route d'Enrique à l'époque où elle travaillait pour le FBI. Elle enquêtait alors sur un tueur en série nommé Marc-Paul Beauchef, qui se croyait obligé d'honorer son patronyme en collectionnant les têtes de ses victimes. Par un précieux hasard du destin dans un monde qui voit la justice reculer davantage chaque année, Beauchef avait eu la mauvaise idée d'acheter une voiture à Enrique. Lors de son arrestation, le tueur avait voulu s'attirer les bonnes grâces des juges en dénonçant le voleur de voiture. La société est ainsi faite que les criminels sont plus nombreux que les personnes chargées de les poursuivre, si bien que les flics se voient régulièrement contraints de trier dans la lie, au même titre qu'un urgentiste est obligé d'établir une hiérarchie entre les blessés dont il a la charge en cas de crise. Les enquêteurs chargés de traiter le cas d'Enrique, en sous-effectif, avaient d'autres chats à fouetter, de sorte que son dossier s'était retrouvé au fond d'un tiroir, réservé aux affaires à traiter le jour où les poules auraient des dents. Jane avait rendu visite à Lois et Pete 2 jours plus tôt. Les faussaires avaient promis de lui fournir 5 perruques haut de gamme de formes et de teintes différentes, des lentilles de contact qui l'autorisaient à changer à loisir de couleur d'yeux, de fausses plaques minéralogiques de rechange. Puis ils avaient réalisé des photos destinées aux différents permis de conduire dont elle aurait besoin pendant sa cavale. Un second chat blanc fit son apparition, qui fit le dos rond et observa Jane de ses yeux du même vert qu'un brouet de sorcière. Jane quitta son appui et le chat bondit sur l'assise du fauteuil inclinable, laissant à la jeune femme tout le loisir de se poser sur le fauteuil voisin, au cuir couvert de griffures. Les faux permis dont elle disposait ne lui étaient plus d'aucune utilité. S'ils étaient enregistrés dans des états différents sous des noms divers, tous affichaient une photo d'elle parfaitement reconnaissable. Lois revint peu après, armée d'une enveloppe Kraft et d'un sac en plastique contenant les 5 perruques correspondant au portrait des faux permis. Jane tira de l'enveloppe 6 permis de conduire plastifiés, porteurs de noms différents. L'un d'eux la représentait telle qu'elle était à ce jour, les 5 autres affichaient des photos réalisées avec l'une ou l'autre des perruques. Pete, sachant que les photos de permis de conduire sont réalisées à la hâte à l'aide de mauvais appareils, avait veillé à respecter la norme en s'appliquant à copier l'éclairage cru et les expressions figées propres à ce type de document. Sans tomber dans la caricature, Jane avait pris des poses banales qui lui donnaient des allures de première de la classe. À la vue de ces portraits, jamais personne ne reconnaîtrait l'ancienne enquêtrice du FBI recherchée par toutes les polices. De même, la banalité même de ces clichés l'autorisait à s'en les dire ou s'améliorer en fonction des situations, tout en continuant de ressembler à la titulaire du permis concerné. Pour couronner le tout, Pete s'était adjoint les services d'un hacker de génie, capable de s'introduire dans tous les fichiers des permis de conduire de tous les états du pays et d'y ajouter un dossier en règle correspondant aux faux documents. Même si Jane se faisait contrôler par un flic, ce dernier trouverait son nom dans le fichier central. Jane, qui avait payé Lois et Pete d'avance, rangea les permis dans l'enveloppe. « Le prix est tout à fait correct, » remarqua-t-elle. « Sauf pour les perruques. » Lois laissa échapper à un rond de fumée. « C'est de bonne guerre dans le commerce de facturer cher les accessoires. On n'est pas les rois du discount, ma chérie. » Jane aurait pris le plus grand plaisir à arrêter le couple si elle en avait eu la possibilité et si elle n'avait pas eu besoin de leur service pour rester libre et en vie. « Décidément, la Syrie est loin, pas vrai ?» Lois haussa les épaules. « La Syrie est un cloaque. Bonne journée. »